veux dire. C'est sur, disons, quelques éléments généraux que j'entends dans ton texte, et puis quelques éléments qui affleuraient dans les différentes questions. Enfin, tout ce qui concerne l'enseignement, me semble, pour tout ce qui concerne l'enseignement, il me semble important de garder à l'esprit que ce que l'on cherche à faire, ce n'est pas à cumuler un certain nombre de connaissances sur l'autre, sur tel autre, à faire d'une certaine manière le catalogue, le recensement de tous les stéréotypes pour les démolir les uns après les autres, mais c'est plutôt un processus de désapprentissage. Il me semble qu'on a toujours tendance à trop considérer l'éducation comme un processus cumulatif où s'additionnent les savoirs, alors que c'est un processus plutôt substitutif où se remplacent des savoirs supposés par d'autres savoirs supposés. Et c'est de là que je tire l'idée centrale pour moi que c'est l'esprit d'examen qu'il faut opposer à l'esprit d'inculcation. Et il me semble que le thème de l'éducation, d'ailleurs quand Étienne rappelait l'étymologie, je me rappelais en même temps l'éducation, donc conduire vers, je me rappelais en même temps qu'il était à une époque, je ne sais pas s'il faut en avoir la nostalgie, mais enfin c'est pas intéressant de le rappeler, où ça n'était pas d'éducation mais d'instruction que l'on parlait, où le ministère s'appelait ministère de l'instruction et non pas ministère de l'éducation, comme il y avait un ministère de la guerre et pas un ministère de la défense, etc. Et donc il y a des petits signes comme ça qui sont indicatifs de grandes transformations. Enfin, toujours est-il que c'est c'est non pas une inculcation, mais une instillation, une infusion d'un esprit de doute et d'examen avec, encore une fois, toutes les conséquences, y compris les plus fâcheuses, que l'esprit de doute peut entraîner, car il n'y a absolument aucun doute, si j'ose dire, sur le fait que cet esprit de doute existe, mais pris dans les filets les plus malfaisants, les plus malveillants, à savoir le complotisme. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le complotisme ? C'est l'esprit de doute concentré sur une toute petite partie des enjeux et qui cherche à trouver des grandes explications simples à des phénomènes. Bon, chacun voit ce dont il s'agit, j'insiste pas. Mais je pense que cette compréhension de ce que l'on entend par éducation, par formation, doit aller jusqu'à cet os-là. C'était ça ma remarque.
C'est ce qu'on fait à l'Institut de Puériculture, mais ça fait mal.
Voilà.
Ça fait mal.
Oui, c'est... mais j'ai un petit peu d'espoir, parce que même si par moments les étudiants sont très imperméables, au fur et à mesure des années qui passent, on les revoit en secteur professionnel, et on se rend compte que 4-5 ans ont été nécessaires pour que ça mature. Donc, bon.
Absolument.
Mais animer les TD avec ces puéricultrices, c'est du sport. Oui. Pour justement arriver à déconstruire ainsi l'esprit de doute sur cette question de la diversité, j'avoue que j'en sors le soir. C'est un peu.
Oui, mais moi je fais un peu ça également dans les formations auxquelles je suis associé à Médecins Sans Frontières pour nos équipes. Bon, les gens sont probablement un peu plus âgés que les étudiants auxquels vous avez affaire, parce que ce ne sont pas tout à fait des débutants, donc l'âge aide tout de même, une certaine expérience sociale, une expérience de vie aide à ces déconstructions, mais c'est tout de même, j'en suis aussi le témoin régulier, un sport de combat, ouais, ça c'est pas de là-dessus.
Elles, comme ce sont des infirmières qui viennent puéricultrices, elles ont entre 20 ans et 47 ans.
Ah oui, d'accord, donc d'accord, donc
oui.
C'est-à-dire, aller à l'os, ça fait mal quand même.
Ah bah oui. Ça fait mal. C'est l'idée même de cette métaphore.
Mais ne serait-ce qu'hier, d'ailleurs, à Sciences Po, j'avais exactement le même. On était sur ce sujet-là. Sur les 14, il y en a deux qui étaient complètement imperméables, totalement imperméables, dans les stéréotypes et qui ne voulaient pas déconstruire leurs stéréotypes.
Je veux dire deux choses, c'est un peu de la provoque,
mais.
Comme d'habitude. J'ai la chance d'être d'un pays de concordat.
Oui, j'ai pas donné mes origines et d'où je parlais, excusez-moi.
Et de m'être trouvée, ça c'est anecdotique, mais je pense que je suis pas anthropologue pour rien, dans des positions minoritaires, ponctuelles, catholiques, dans un lycée protestant, etc. La croyance. Et c'est par rapport à ce que disait Bernard, j'ai un souvenir très précis des cours de religion comme le lieu où il n'y avait pas de programme et où justement on échangeait. C'est une petite provoque, mais il y a des expériences, et particulièrement au collège, c'était extraordinaire. Et ce n'était pas réservé aux catholiques, aux protestants, aux juifs. On pouvait tourner. Et en primaire, actuellement, les gamins tournent comme ils veulent. Ça, c'est un. L'autre chose, déconstruire un peu. Je me suis pris dans la figure, il n'y a pas longtemps, un truc, mais qui est une expérience extraordinaire pour moi. J'étais avec des vieilles copines de l'époque de l'école, dans mon quartier, dans le 19e, et on va acheter une galette des rois dans la super boulangerie bio juive, tout près. Et on choisit une galette, et la boulangère nous dit « Ah, je vous préviens, il n'y a pas de fèves dedans. » On dit « Ah bon ?» Ah ben oui, parce que c'est une fête païenne, hein, les rois. Et on se retrouve toutes les trois, plus mécréantes les unes que les autres, à dire quoi, c'est une fête païenne, c'est quoi cette histoire? Voilà. Ah ben putain. Voilà. Et, bon, alors, petite anecdote, ça date il y a quelques jours, pour Pourim, la boulangère me dit la veille, à demain, je ferme à 11h, c'est pour Pourim, voilà. Je dis, on se demande, avec une autre cliente, on dit, mais alors c'est quoi, expliquez-nous. Elle nous explique très vaguement, et elle nous explique surtout qu'elle va se déguiser. Passée voir, elle était en schtroumpf à sa caisse. Voilà.
Voilà. C'est mignon.
C'est mignon, oui.
Enfin, juste pour poursuivre comme ça, pour raccorder à des éléments dont auxquels j'ai fait allusion dans ma présentation, Pourim, c'est pas mignon du tout dans les territoires palestiniens occupés, parce que c'est le moment où il y a des beuveries et où cette espèce de carnaval, qui était en effet à l'origine un carnaval où il s'agit de tourner en dérision un tyran qui a voulu exterminer les juifs, ça tourne souvent aux attaques de poivreaux contre des gens qui n'en peuvent mais. Et vous avez peut-être vu que Netanyahou a utilisé Pourim hier dans un... Hier ou avant-hier, non, enfin, je pense, moi j'ai lu ça dans Arrête, ça ne fait pas le. Ça n'est pas dans les journaux français, mais il est utilisé pour Pourim pour justifier une possible attaque contre l'Iran. Et ces allusions religieuses, Nabucodonosor, le temple, Pourim, tout ça, sont permanentes dans le discours. J'insiste là-dessus pour désenclaver cette question du noueux, cette question de l'expression publique et politique de la religion, l'islam compatible avec la République, question qui ne se pose pas sur les juifs qui se prennent au contraire comme le canari dans la mine, le signal, l'indicateur de la vaillance, de la vigueur des principes républicains. Par rapport à d'autres. Moi, je plaide pour un alignement des conditions, un traitement égal de toutes les conditions par rapport à cette concurrence dont je parlais tout à l'heure. Mais si je plaide pour ça, c'est un peu, ça me paraît être une sorte d'évidence sur laquelle il est inutile de s'attarder. Mais c'est à partir du constat que c'est tout le contraire qui se passe et que c'est le pointage de ces attitudes qui contredisent ces principes républicains, parce qu'on a parlé de laïcité, on aurait pu parler de républicanisme aussi, parce qu'au fond, il y a cette espèce d'intrication permanente. Et moi, je dirais là-dessus qu'il n'y a pas de république, il n'y a que des preuves de république, en paraphrasant cette vieille phrase sur l'amour, mais qui me paraît beaucoup plus appropriée à la république qu'à l'amour, précisément.
Il n'y a pas de laïcité, il y a des preuves de laïcité.
Oui, alors je trouve que ça marche pas très très bien.
C'est moins joli.
Oui. Non, je pense que ça marche bien pour la République, et notamment, je reprends ce terme d'inculcation qui m'obsède, parce que je trouve que c'est devenu un C'est un maître mot qui est totalement... Si ça marchait, ça ne m'obséderait pas, mais je pense que ça produit des effets contraires.
C'est la rectance.
Voilà, exactement.
Et pas joli
les principes républicains... les principes républicains, la main sur le cœur, le truc à la République, et puis il y a les traîtres à la République, une espèce de désignation d'ennemi intérieur sous couvert d'affirmation de l'idéal républicain. Tout ça tend vers la prophétie ethniciste autoréalisatrice. Et je trouve que c'est tout à fait préoccupant.
Ce qui serait intéressant, parce que la laïcité, c'est une spécificité très française. Quand on parle avec des étrangers de la laïcité, c'est un concept qu'ils ne comprennent pas.
Ça ne se traduit pas.
C'est extrêmement difficile à expliquer. Et on se rend compte que ce concept de laïcité n'a pas résolu nos problèmes. Et ça serait intéressant, je n'ai pas la connaissance, mais peut-être les gens dans la salle ici l'ont, de comment est-ce que les autres pays démocratiques règlent ce problème de religion, religiosité, synesthésie de religion et vie publique, vie républicaine. Parce qu'il n'y a pas qu'en France, il y a des républiques. Ça serait intéressant de savoir comment est-ce que les autres s'en sortent.
Alors, il y a des comparaisons des modèles, le modèle canadien, le modèle anglo-saxon, le modèle anglais.
Le modèle anglais, plutôt sur le mode du concordat.
Oui, plutôt sur le mode du concordat. Tout à fait.
Et nous-mêmes, d'ailleurs, juste, je trouve que l'exemple de l'Alsace-Lorraine, disons, est quand même particulièrement intéressant parce que c'est un démenti à cette espèce de discours laïcard dominant. Le concordat ne suscite pas d'élan communautariste. Bon, il y a des réactions individuelles, mais le genre de réaction que vous avez vu là pourrait se voir absolument partout, quoi, y compris.
Le cimetière, il n'était pas en Alsace-Lorraine.
Si, mais enfin, les profanations de cimetières, il y en a eu plein, hein, quand même. C'est, oui.
Mais tu parlais justement des victimes. Là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 5 cimetières chrétiens qui ont été vandalisés il y a 3 semaines dans toute la Basse-Normandie, dans mon coin? 5, il y a eu, je crois, 250 tombes qui ont été vandalisées avec des croix plantées à l'envers et tout.
Voilà, les cimetières chrétiens vandalisés sont un phénomène régulier dont moi j'ai pris conscience à l'occasion justement d'une sorte d'information qui a été émise pour d'autres cimetières, en particulier juifs, qui ont été profanés. Mais oui, c'est une... Donc je ne vois pas quelle conclusion particulière on peut en tirer. C'est immonde, naturellement. Oui. Mais ce n'est pas lié, je pense, à une géographie particulière.
C'est ce que je disais.
Comment ?
C'est ce que je disais.
Oui, oui. Non, alors, c'est pas...
Donc le concordat ne démontre pas grand-chose à ce point de vue-là. C'est ça que je souligne.
Ah non, il ne démontre rien d'autre que la relative vanité de l'opposition entre une laïcité à la française telle qu'elle est vantée comme au fondement du principe républicain, du vivre ensemble et tout, et que tout le reste ne vaudrait rien. C'est rien de plus.
Ben, moi, je tire quand même de mon expérience sur un pays anglo-saxon où j'étais... quand même résident 4 années, alors c'est pays africain, mais de culture anglo-saxonne, il y a quand même une vision du monde hiérarchique que la réflexion laïque en France a réussi à démolir. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, aussi bien administratif que humain, il y a une hiérarchie des êtres humains. Il y a une hiérarchie avec des groupes qui se retrouvent hiérarchiquement dans ce monde anglo-saxon.
Hiérarchie de la dominance.
La dominance, absolument. Et qui se retrouve à tous les niveaux, hein, parce que le Botswanais, après tu as les Bassoubiens, les Batawana, etc. Mais le sommet, c'est la reine. Voilà. C'est la reine. Comme le... et ça, je pense que le concept de laïcité en France nous a permis de dépasser ce qui semblait vraiment tout à fait naturel. Et c'est...
Moi, je ne vois pas pourquoi.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que le critère de la prononciation de l'anglais est considéré comme une manière de pouvoir identifier immédiatement les appartenances et les systèmes de dominance. Et que chez nous, Nous n'avons pas non, ce parallélisme non plus. Et tous ces Français, toutes ces pratiques langage-guerre dans un certain nombre de banlieues et disons de marges qui apparaissent des marges sont en fait en train de se diffuser très largement et de constituer un support d'échange qui devient un mode commode mais aussi un peu ciblé pour définir les communications au sens le plus large possible. Donc la société française sous cet angle-là non plus ne reprend pas des modèles anglo-saxons. C'est aussi intéressant comme on passe notre temps à se dénigrer et à chercher à comprendre pourquoi on est les pires du monde. Il y a des domaines dans lesquels, effectivement, ce sont des ressources originales qu'il faut apprendre à mieux maîtriser pour mieux les valoriser aussi.
Ah oui, moi je ne peux aller que dans ce sens-là. Moi, il se trouve que je suis assez souvent en Angleterre où j'enseigne. Je suis un prof à Manchester et je constate en effet cela. Je trouve que le modèle français est loin d'être caractérisé par un échec total et que l'exercice, en effet, de hypercritique touche vite à ses limites dès qu'on élargit le regard. Mais disons, le modèle républicain égalitaire tel qu'il a été produit par la société française, le rôle de l'État dans la société, ça, ce sont des caractéristiques, je pense, des caractéristiques nationales qui rendent mieux compte de ce dont tu parlais, à savoir de ce caractère horizontal du regard qu'on pose sur la société, de la suspicion vis-à-vis des hiérarchie non justifiée, ou en tout cas qui ne se justifie que d'elle-même, ce que dans une certaine culture anglo-saxonne on accepte mieux, mais je pense que ça renvoie plus à une histoire nationale qu'à un principe de laïcité.
Ah bah, enfin, les deux, tu parlais justement de l'historiciser la laïcité.
Oui.
Les deux sont. Oui. J'ai un autre exemple, c'est le Brésil aussi. Qui pour le coup est un pays très 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 mélangé, etc.
Je voulais juste dire que le catholicisme a joué un rôle là-dedans aussi, et pas seulement la laïcité. Donc s'il s'agit, c'est donc on a un problème là si on attribue ça juste.
Le Brésil, qui est un pays hyper catholique, est un pays hyper raciste et hyper hiérarchisé. Au point même que j'ai mis sur le site de Regard l'analyse d'un jeu, enfin c'est pas un jeu, c'est une borne interactive au musée d'art et tradition populaire de Belo Horizonte, musée d'art et tradition populaire, tu racontes des trucs, où l'objectif est de mettre l'école porteur en relation avec leurs clients, et donc tu as le juif à mettre en relation avec le fermier, tu as le français à mettre en relation avec la belle dame, et donc c'est une construction de stéréotypes qui est véhiculée de façon pédagogique dans le musée. D'accord. Tu vois, et c'est pourtant un pays catholique, hein. Donc je pense que
pas un pays catholique dans lequel l'évangélisme
ça c'est indépendant. L'évangélisme actuellement est en train gagne du terrain.
Je pense que justement l'histoire spécifique du Brésil, l'histoire coloniale, l'impensée coloniale du Brésil, la stratification raciale et la stratification de race et de classe étant ce qu'elle est au Brésil, il y a autre chose. Je ne peux pas faire ici le défenseur de la catholicité, loin de moi cette idée saugrenue. Mais non, surtout à côté d'un ennemi des jésuites. Alors, mais bon, c'était. C'est pour mettre un peu à distance. Je trouve qu'il y a un excès de mérite attribué à la laïcité, à la française. Et cet excès de mérite est dû à une déshistoricisation, précisément, de cette notion, je pense.
Parce que on parle peut-être pas de la même chose. Hein. Mais quand tu dis que la laïcité nous a protégés d'une forme de hiérarchisation de la société,
nous a permis de dépasser.
Oui, ben j'en suis pas convaincu. La société française est extrêmement castique. Elle l'a été traditionnellement, historiquement, et elle l'est toujours.
Elle l'est beaucoup moins qu'elle ne le fut.
Peut-être.
Et moins que les anglo-saxons.
Et beaucoup moins que les anglo-saxons. Et beaucoup moins que le Brésil. Pardon ? Pas sur le ?
Pas sur les mêmes critères.
Oui, non mais...
La hiérarchisation, elle n'est pas ethnique, communautaire, raciste, voyons. Mais
sociale.
Oui, sociale.
Oui. Non, mais l'être humain, de toute façon, crée des castes.
Dieu, mais voilà.
Mais je pense qu'on a justement réussi à dépasser quelque peu, sans la neutraliser. Hein. Et alors, aujourd'hui se passe un autre phénomène, c'est les phénomènes économiques, d'aggravation terrifiante des inégalités économiques, terrifiante, et qui là va recliver les populations qui vont plus se croiser. Mais au niveau conceptuel, enfin bon, c'est vrai qu'il y avait l'Afrique du Sud, mais même les discours brésiliens, enfin, ce type de jeu, c'est impensable ici en France. Surtout de façon didactique, dans un musée des arts et traditions populaires. Ça serait quand même... se retrouverait immédiatement avec...
Au tribunal.
Au tribunal. Ouais.
Et je voudrais revenir sur une réflexion de Ronnie. À un moment, il disait ne pas tomber dans les formes de communautarisme à l'anglo-saxonne. On est toujours là, en face de cette question extraordinairement complexe actuellement. Après les événements de janvier, quand on regarde, enfin, moi je lis Le Monde, hein, quand on regarde le nombre d'articles qui ont été consacrés à la prise en compte de la différence culturelle dans les grandes réflexions de fond, j'en ai été deux sur un mois et demi, c'est-à-dire quasiment rien, c'est-à-dire que quelques porteurs de quelques éveilleurs de conscience, hein, ont posé un certain nombre de questions, mais pour l'instant, cette question qui est au cœur du projet de regard, hein, elle est encore quasiment oubliée ou non prise en charge par des mouvements de réflexion qui permettraient d'aller vers plus de prise en considération de la différence sans entrer dans des formes de ghettoisation. Et on comprend tous, hein, parce qu'on le vit en différentes façons, que cet équilibre-là, il est extrêmement délicat, il ne peut pas être institutionnalisé, il peut être organisé, mais pas institutionnalisé. C'est-à-dire la forme de prise en charge par la société doit être, en fait, plus celle de tous les citoyens conscients, etc., plutôt que d'une institution qui serait chargée de veiller au respect des bons usages, etc. Mais je crois quand même que... il faut que nous continuions, au niveau de regard, à travailler là ce champ, cette plateforme extrêmement difficile. Que donc, si vous avez des propositions pour les prochains samedis de regard, hein, le prochain samedi est déjà fixé au mois de juin.
Oui.
Voilà, on se retrouvera vraisemblablement dans une salle à côté. Je parle au nom de Stéphane là, mais Stéphane va reprendre la parole là-dessus. Mais je pense que si vous avez des propositions, hein, déjà Stéphane avait par la thématique d'aujourd'hui ouvert la perspective à nos pratiques professionnelles, hein, en parlant de la solitude. Non pas du coureur de fond, mais du travailleur de fond. Hein, il faudrait qu'on continue un peu à aller dans cette direction qu'a tracé Stéphane, mais en essayant de voir comment il est possible de travailler quelque chose. Vas-y.
Non, c'est 13 juin, samedi 13 juin, oui.
Non, mais justement, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous venez de dire sur le fait que dans le monde, on a deux articles sur la différence culturelle. Bien symptomatique pour moi un petit peu du débat sur ces questions-là en France. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre ce débat, on referme très vite. Et moi, il y a 20 ans, exactement une vingtaine d'années, je me rappelle qu'il y a eu des débats autour du poil, entre autres, mais pas seulement ça. Et moi, j'étais assez sensibilisé déjà à ces problématiques et à ce moment-là, j'étais aussi un peu une stagiaire. Et donc, il y avait Michel Viviorca qui était venu. Je suis parti du laboratoire de sociologie créé par un Tourelle, le CAPIS, avec tous les différents penseurs. François Dubé qui a travaillé sur l'école, Michel Viorca. Et dans le laboratoire, il y avait aussi parler du voile là. il y avait Farad ou Kosko-Robar, voilà, qui travaillait justement, qui avait, parce que le principe de leur méthode de sociologie, c'est d'interroger les acteurs. C'est d'aller sur le terrain, interroger les acteurs. Et justement, qui a fait tout un travail sur le voile, qui avait interviewé les personnes qui portaient le voile, et c'était très intéressant. Donc justement, ce débat a été... Il y a eu quelques articles à ce moment-là, je me rappelle très bien, c'était un débat dans la presse, puis après, tout de suite, on a refermé le débat. Et ça remontait tout à fait sur ce que vous disiez par rapport à l'éducation, sur, entre unité et diversité. C'est-à-dire que, voilà, on a l'impression de système de pensée binaire. Soit c'est l'unité, soit c'est la diversité. Voilà, mais il ne peut pas avoir, pas réfléchir à articuler les deux, à penser quelque chose. Et ça, quand même, c'est, je trouve que c'est vraiment un beau gâchis, parce que la laïcité à la française, elle, c'est un acquis très important, là-dessus on est tous d'accord, mais elle n'est pas figée. Et c'est vrai qu'on est. Et je pense en plus qu'il y a aussi une démission pour moi du politique, c'est-à-dire qu'en fait, le politique n'est pas très au clair aussi sur les valeurs de la République, sur qu'est-ce qu'on entend derrière la République, qu'est-ce qu'on entend derrière la laïcité. Et donc on se fiche sur l'identité, c'est un peu le républicanisme, on se fiche sur des principes comme ça. Comme on assigne les musulmans à une identité, on les renvoie une. Voilà. C'est vrai que la question, voilà, moi je suis pas. Voilà, je suis athée comme vous, je suis de confession catholique, mais on m'assigne jamais, on va pas me renvoyer une identité catholique. On est là depuis 2 mois, c'est quand même incroyable. On dit, voilà, dès qu'on a une tête, excusez-moi, je vais être un peu caricatural, mais je sais pas, qu'on a une tête d'arabe, on renvoie l'identité musulmane.
Bah, oui, mais moi j'ai eu une engueulade, et d'ailleurs une engueulade sérieuse, fâché, une amie, parce que comme dirait Roland Dumas, je suis sous influence juive, et une amie...
Je dirais un mot là-dessus, parce que c'est très, très symptomatique, je voulais en parler, avant qu'on se disperse comme ça, si tu permets, je dirais un petit mot là-dessus.
Non, mais c'est juste là, c'était très 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 violent, parce que donc c'était un discours sur, maintenant, vous les Français, vous allez savoir ce que les musulmans peuvent vraiment faire, évidemment, juifs, pratiquantes, sionistes, engagés, et vous n'avez pas su, et c'était d'une violence, vous les cathos, vous ne savez pas ce que c'est. Je me suis retrouvé tout d'un coup dans ce truc-là. Ça a été d'une violence inouïe, totalement inouïe. Bon, c'est terminé en clash, claquement de porte et tout. On ne se reverra plus jamais. Ça, c'est clair. Mais par rapport à ce que vous dites, on est toujours les pygmées de quelqu'un. On est toujours le pygmée de quelqu'un. Il faut bien le réaliser, ça. À un moment ou un autre, ça va sortir.
Et bon, ça, c'est une réalité générale. Quand on lui donne ça... substance, sa consistance locale, on arrive effectivement à ce genre de situation dont tu parlais. Il se trouve que j'ai été amené à réagir un peu par le hasard des choses. J'étais invité par Europe 1 à réagir sur les notions d'islamo-fascisme quand Manuel Valls a utilisé cette formule. Et c'était le jour où Roland Dumas avait s'était laissé embarquer par comment s'appelle-t-il, Jean-Jacques Bourdin, qui est le premier d'ailleurs à avoir prononcé influence juive, et Roland Dumas a joué avec ses airs de vieux malin là. C'était pas très malin, enfin je trouvais que c'était pas très malin là, de faire comme il a fait. Mais pas très malin ne veut pas dire nauséabond, années 30, etc. Ça veut dire simplement pas très malin, ou alors malin à sa façon, que je désapprouve personnellement, parce que ce à quoi il faisait allusion était une réalité tout à fait tangible, pas un truc flottant, la conspiration juive, l'influence juive, un truc qui serait en effet nauséabond et très années 30, qui serait gringoire, je suis partout et tout. C'était pas du tout ça. Il faisait allusion à quelque chose qui circule sur YouTube, qui est sur le net depuis plusieurs années, ça s'est passé en 2011, c'est une intervention de Manuel Valls à Radio Judaïka, alors que il était porte-parole, je crois, du candidat Hollande, et il proteste suite à des événements, je ne sais plus très bien quoi, qui se sont passés, genre, des réactions critiques vis-à-vis de la politique israélienne en Palestine. Il proteste de sa bonne foi, il dit, et il évoque... Alors, d'une part, Jankélévitch, bon, ça mange pas de pain, si j'ose dire, et d'autre part, sa femme, sa nouvelle femme, celle qu'il a épousée en deuxième mariage, dont il est extrêmement amoureux, personne ne peut lui reprocher, mais dont il parle en disant que avec elle, c'est la fidélité, la loyauté inconditionnelle au peuple, aux Juifs et à Israël. C'est lui qui associe les deux. Hein, c'est pas une invention de Dumas. Et donc un homme politique qui plus est présidentiable, même s'il ne l'était pas, qui affiche sa loyauté totale, éternelle, inconditionnelle à un pays étranger du fait d'une relation avec sa femme juive, moi je trouve que c'est un vrai problème et que ce sont les propos de Valls qui étaient un problème, bien plus que les propos de Dumas qui étaient simplement maladroits, peut-être délibérément, peut-être avec des arrière-pensées, ça j'en sais rien, mais
plus que maladroit. Je pense que c'était très nauséabond.
Moi, je les ai
écoutés, s'il avait écrit, je ne connaissais pas cet épisode, qu'il aurait dû mériter d'être décrit.
C'est ce que
effectivement.
C'est ce que j'ai fait sur Europe. Et c'est pas un truc très écouté, mais ça circule, ça a été filmé, ça circule sur Internet, c'est sur YouTube. Et ça n'a été repris par absolument personne, sauf par les médias sociaux. Et c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, cette espèce de plafond de verre qui interdit à certains sujets, certains propos d'émerger. Moi, je ne me considère pas du tout comme ostracisé médiatiquement. Je suis régulièrement inventé. Je ne prends pas une posture de victime. Invité, pardon. Enfin, je dis inventé. C'est bizarre. Et donc, je ne prends pas du tout une posture de victime. Et je constate que ce genre de propos n'est pas du tout repris autrement que par les Soral, Dieudonné, Panamza, enfin, toutes sortes de sites. J'ai une alerte Google à mon nom. Je reçois tous les jours une myriade de sites, de blogs qui citent le truc. Donc ça veut dire que ça circule, mais ça ne traverse pas. Or, il ne s'agissait pas de me citer moi, il s'agissait de citer les propos de Valls, qui sont tout de même un problème. Bon, c'est un problème sérieux, comme ceux de Strauss-Kahn, qui disait « Chaque jour où je me lève, je me demande comment je vais pouvoir servir les intérêts d'Israël. » Il a écrit ça. Qu'un potentiel président de la République française trimballe des trucs comme ça, c'est en effet un problème, c'est un aliment incomparable pour l'antisémitisme, au moins tant qu'ils n'ont pas été appelés à se justifier, à s'expliquer, et là-dessus, et sur les implications politiques que ça suppose. Voilà, c'était ma remarque. Donc je me serais fâché aussi à mort. D'ailleurs, je suis fâché à mort avec un certain nombre de gens qui sont de cet acabit-là.
Est-ce qu'il y a d'autres... J'entends les estomacs gronder. Ben, merci beaucoup. Donc on vous enverra le sujet du prochain 13 juin, noté sur votre calendrier. Peut-être ça sera dans l'amphi, peut-être dans une salle, on verra, selon les inscriptions. En tout cas, merci Rodi. Merci. Et puis, n'hésitez pas à envoyer vos contributions, suggestions. Voilà.